cet opéra fonctionne au départ sur une rupture, puisque le petit prince quitte sa rose à trois épines. Et il y a quelque chose de tragique dans cette séparation.
J'ai fait l'adaptation du Petit Prince. Je ne peux pas confier à un auteur l'adaptation pour une forme musicale et une forme d'opéra et une forme théâtrale. C'est-à-dire vraiment, j'ai un lien avec le théâtre et sur les formes théâtrales. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la métamorphose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis bien entendu avec le texte de Jean Genet, qui fait que j'ai travaillé, notamment pour passer de l'imparfait au présent, pour transformer l'aviateur narrateur en acteur, et pour ouvrir le champ, je dirais, allégorique de la scène de théâtre et de son périmètre vers l'infini utopique des lieux, et donc de vivre cette expérience de la relation tendue et passionnante au XXe siècle entre le théâtre et le cinéma et la fiction des lieux. Mais alors, la rose a été, je dirais, le premier air, je dis exprès, air naturel que j'ai entendu, que j'ai écrit. Alors, bien sûr, heureusement, le Petit Prince porte en lui un certain nombre de structures fondatrices des formes d'opéra. Je ne peux pas encore analyser pourquoi, dans un opéra, il y a de l'opéra quand il y a aussi une relation amoureuse, une rupture, une trahison. Et tout y est dans le Petit Prince, y compris la trahison du Petit Prince vis-à-vis de l'aviateur quand il est en complicité avec le serpent. Et c'est une scène qui me fait penser à Golo et Péléas et Mélisande. Enfin, c'est-à-dire, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Voilà. Et d'ailleurs, la disparition, le départ du Petit Prince suit dans mon adaptation cette découverte de la trahison. D'ailleurs, qui a choqué la succession Saint-Exupéry, mais je continue à dire qu'il y a une trahison, il y a une duplicité du Petit Prince par rapport à l'aviateur. Mais la rose, c'est un lieu crucial. La rose, le lien avec la rose, c'est un vertige très, très caractéristique du lien. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il un lien? Pourquoi puis-je aimer cette rose plutôt qu'une autre? C'est pas Don Juan, ce Petit Prince, c'est pas le désir infini, inassouvissable. Non, c'est l'absurdité du lien. Je veux raconter la rose quand je suis dans un aéroport et quand j'attends ma valise. Je ne veux pas comparer un être humain ou une rose à une valise, mais je me dis, mais il y a un million de valises comme la mienne, qu'est-ce qui me lie spécialement à cette valise? Et évidemment, horreur, enfin c'est c'est difficile à avouer, mais qu'est-ce qui me lie à un autre? Alors évidemment, on ne va pas Lévinasien père, il y a là-dessus une réflexion importante sur la question de la relation à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi, ça a été très important dans Le Petit Prince, que en fait, compte, pour la génération d'Emmanuel Lévinas, il y a un texte d'ailleurs d'Emmanuel Lévinas sur Le Petit Prince, et que finalement, Saint-Exupéry a eu un impact conceptuel beaucoup plus important qu'on ne veut bien le croire. Mais cette rose, en fait, compte, eh bien, cette rose, il va découvrir qu'il y en a 5000, il y en a 5 millions. Et le renard va dire, effectivement, eh bien, il y a un lien avec une personne, comme il y a la notion du rite. C'est-à-dire que cette question de la rose, elle structure l'ensemble du texte du Petit Prince. Mais pourquoi j'ai évidemment eu d'abord ce premier air? Parce qu'en même temps, c'était terrifiant, ce lien. Parce qu'en même temps, elle est totalement triviale, la rose. La rose, elle demande le petit déjeuner. Et évidemment, il n'y a rien de plus terrible quand on a rencontré une merveilleuse rose, finalement de découvrir le matin la trivialité de son besoin du petit déjeuner. Je me souviens d'avoir entendu parler du petit-déj. Et alors, cette rose, je lui ai donné un accent anglo-saxon extrêmement snob, mais en même temps très exigeant, qui casse la relation par l'exigence. C'est la relation amoureuse par excellence. Son absurdité, son caractère unique, irremplaçable et en même temps éphémère, dans lequel est déjà inscrite la question de la mort. Ces questions-là, elle sous-tend une autre structure du Petit Prince qui m'a permis d'ailleurs de concevoir cet opéra, je crois. C'est la question que je ne cesse de mettre dans le texte de l'aviateur. Mais d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Que fais-tu là? Et ça, évidemment, que fais-tu là? D'où viens-tu? Mais que fais-tu là? Mais que fais-tu là? Cette question-là, l'apparition métaphysique, la révélation, avec tout ce que j'ai pu recevoir à la fois de tradition théologique, notamment sur la relation avec l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait là? Mais qu'est-ce qu'on dit fait là? Eh bien, effectivement, à partir du moment où il est là, j'en suis responsable. Bien sûr, mais en même temps, il y a eu derrière Messiaen, Et d'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'ange musicien de Saint-François. Ces différentes structures qui ont organisé mon adaptation avec une autre caractéristique très particulière du Petit Prince, et pour un homme de théâtre, c'est important. La question, et le terme évidemment dans ma bouche, a un côté autobiographique en tant que compositeur, la métamorphose des personnages et des symboles. C'est-à-dire, par-delà ce côté livre d'enfant qui conditionne la forme opératique, c'est-à-dire les pages qu'on tourne, c'est le contraire de la métamorphose. Mais il y a en même temps une continuité souterraine à laquelle il faut faire très 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 attention. C'est la manière dont apparaît, par exemple, le thème de la rose à travers la discussion et la dénonciation du fascisme dans la scène du Baobab. C'est-à-dire les épines, les moutons qui mangent, la manière dont progressivement, en parlant du Baobab, apparaît la question de la relation amoureuse et de la fragilité, en même temps que le fait, bien entendu, de savoir que toutes les roses, finalement, seraient peut-être toutes les mêmes. Mais attention, on peut aussi ne pas voir la différence fondamentale entre la rose et le baobab. Au début, le fascisme apparaît comme une rose. Tous ces éléments-là, évidemment, sont une structure qui conduisent la forme générale de l'opéra et en même temps le travail de l'adaptation qui commence avec la première scène dans laquelle, vous savez, c'est terrifiant, c'est un vrai génome, le texte de Saint-Exupéry. Il y a la tradition de la comptine enfantine, il y a la scène de les traditions des maternelles françaises, la nécessité d'avoir des voix d'enfants français des années 50 ou des années 30, ce qu'on voit dans les films de Clouzot, qu'on voit dans les films de la guerre des boutons. Et en même temps, l'ambivalence incroyable dans « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », qui sera un des motifs, d'ailleurs, leitmotiv, ne serait-ce que par trois intervalles, pour permettre à ce que la voix de l'enfant soit harmonisée. Ce sont les trois intervalles du trio de Ligeti. C'est l'élément unificateur de l'ensemble du Petit Prince. Mais cette question, dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton, ça ne se résout pas, bien sûr, uniquement à une scène d'harcèlement d'un enfant. C'est une question métaphysique qui va s'exprimer totalement dans la question de la boîte, c'est-à-dire un génome, parce qu'il y a, chez Saint-Exupéry, le surréalisme, la question du texte de Breton sur la métaphore et l'allégorie de Giacometti, il y a Colette aussi, et il y a un texte d'Emmanuel Lévinas qui a été pour moi essentiel, c'est le vrai mouton, il est dans la boîte. C'est-à-dire que le vrai mouton, eh bien, le mouton, on ne peut pas le concrétiser. Ce mouton. Et évidemment, cette question de la boîte et du mouton, ça c'est le vrai mouton, ça rejoint dans la structure de l'ensemble du Petit Prince cette question « Mais d'où viens-tu mon petit bonhomme ?» ou la manière dont le Petit Prince ne va pas mourir, c'est pas la métamorphose, mais va partir. C'est-à-dire ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas le Christ, c'est la vérité, une notion de vérité qui pour un compositeur de musique contemporaine est essentiel.
Je me souviens que dans la boîte, il y a aussi trois trous.
Oui, il y a trois trous. Enfin, il ne s'agit pas de voir le mouton, les trois trous. Bien entendu, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui laisse comprendre qu'il y a là l'essentiel. Et d'ailleurs, l'essentiel est invisible. C'est un texte d'une complexité totale, et je vais vous dire une chose. Le plus grand trac que j'ai eu dans Le Petit Prince, j'ai rarement le trac pour une création, sauf de dire que j'ai raté, même quand l'œuvre est créée, même si elle avait du succès, la notion d'œuvre réussie est une notion sur laquelle il faut tout de même accepter que l'erreur est continue dans le temps, et pas seulement par la justice qui répare les erreurs contemporaines. Bon, ça c'est un mythe encore du XXe siècle. Mais l'histoire est terrible. Elle se moque de la question du jugement créateur. Bien entendu, cette question de la boîte et du trou et la manière dont le texte se conduit, bien sûr, les enfants, quand j'étais là, je disais, eux, ils écoutent sans présupposer. Bien entendu, c'est le public dont j'ai eu le plus peur. Je pense, dans ce sens-là, c'est un opéra jeune public. Ceux qui vont nous renvoyer la vérité sur la perception, de la même manière que le Petit Prince le dit, c'est ceux qui l'écoutent, ces enfants-là.